Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Julie Delabrosse, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Élise Leu.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
L'actualité écho décryptée par des acteurs, des chercheurs, des journalistes. C'est tous les vendredis à 14h dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Et c'est demain que les Gilets jaunes se rassembleront un peu partout en France pour protester contre la hausse des prix des carburants. Et cela malgré la chute des cours du pétrole que l'on observe depuis le début du mois d'octobre. Une dégringolade qui ne s'est pas, il est vrai, véritablement ressentie à la pompe. Dans le collimateur des automobilistes, la fiscalité écologique et les nouvelles hausses des taxes sur les carburants prévues dans les prochains mois. Une grogne qui relance une fois de plus le débat autour de l'après-pétrole et des alternatives aux énergies fossiles. Alors, comment se désintoxiquer du pétrole et à quel prix ? Ce sont les questions que l'on va se poser aujourd'hui avec nos invités. À 14h45, Jacques Lecacheux ajoutera un ouvrage de circonstance à notre bibliothèque idéale de l'écho, L'économie du bien-être d'Arthur Pigou, le père du principe du pollueur-payeur. Trois invités autour de la table pour nous aider à y voir plus clair sur ces questions fiscales et pétrolières. Bonjour Mathieu Ozano.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Shift Project, un think tank qui travaille sur la transition énergétique. Et vous êtes l'auteur du blog Oilman, chronique du début de la fin du pétrole sur le site lemonde.fr. À vos côtés, Jean-Marie Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine et ancien directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Et enfin, Sébastien Timsit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge des initiatives sur l'énergie et la finance carbone au sein de Carbone 4, un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie bas carbone. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Il faut en effet progressivement réduire l'écart qu'il y a entre le diesel et le sans-plomb, les différents sans-plomb. Et il faut en effet davantage taxer ce qu'on appelle les énergies fossiles pour financer notre investissement. Dans quoi ? Dans les énergies renouvelables, dans le véhicule électrique et l'hybride, dans justement toutes les aides aussi qu'on apporte à nos entreprises et à nos concitoyens pour qu'ils rentrent dans cette transition. Elle va prendre plusieurs années, mais nous sommes en train de le faire. C'est là qu'on réconcilie l'ambition de changer le pays, la considération pour nos concitoyens, le fait d'entendre qu'ils souffrent et que ceux qui sont les plus modestes, ceux qui travaillent tous les jours et ont besoin de prendre leur voiture, ceux qui sont dans une chaudière au fioul et qui ne peuvent pas la changer, il faut les accompagner. Quand on annonce qu'on va doubler la prime de conversion des véhicules, c'est considérable.
Voilà, Emmanuel Macron, lors de l'interview réalisée depuis le porte-avions Charles de Gaulle, mercredi. Les manifestations et les blocages prévus demain visent donc à protester contre la hausse des prix des carburants. Et pour comprendre cette hausse, intéressons-nous d'abord à ces variations des cours du brut. Depuis le début de l'année, le pétrole a passé la barre des 80 dollars avant de connaître une chute de 20% en octobre. Comment expliquer cette dégringolade pour commencer, Mathieu Ozano ?
Il y a une grande volatilité de toute façon depuis plusieurs années sur les cours du baril. Ça, c'est une constante et ça va rester. Il faut s'attendre à ce que les prix du baril continuent à fluctuer fortement, avec les possibilités qu'ils remontent aussi très fort. Là, en l'occurrence, la baisse des cours du baril, c'est une conjonction de différents facteurs de détente géopolitique. On comprend que les États-Unis vont être un peu moins sévères que ce que Donald Trump annonçait dans les sanctions, la mise en place des sanctions contre l'Iran.
La Chine et l'Inde pourront commercer avec l'Iran.
Notamment, le Japon pourrait voir ses capacités facilitées à remporter du pétrole iranien. Puis côté OPEP et Russie, il y a toujours une volonté d'arriver à calmer ces évolutions assez erratiques des cours du brut. Donc ça explique une évolution qui est très ponctuelle aujourd'hui et qui pourrait très bien s'inverser assez facilement.
L'Arabie Saoudite a annoncé en effet qu'elle allait diminuer sa production de brut à partir de début décembre. Est-ce qu'il faut s'attendre à une nouvelle remontée des cours, sachant que les pays de l'OPEP aussi discutent d'une possible baisse d'1,4 million de barils par jour pour 2019?
Oui, la plupart des grands pays producteurs de pétrole, à commencer par exportateurs, à commencer par l'Arabie Saoudite et la Russie, ont besoin d'un cours du baril élevé pour continuer à acheter la paix sociale, par exemple, en Arabie Saoudite, ou pour financer de très importants investissements nécessaires en Russie pour maintenir les capacités de production russes.
Jean-Marie Chevalier.
Oui, il faut noter que la géopolitique du pétrole a complètement changé. C'est-à-dire qu'on a maintenant quelque chose de complètement nouveau, c'est que le premier producteur de pétrole dans le monde, ce sont les États-Unis. Les États-Unis avec donc une production qui ne se régule pas comme en Arabie Saoudite ou en Russie éventuellement. Et Donald Trump est pris entre deux choses, avoir un prix suffisamment élevé pour que les producteurs de gaz de schiste, de pétrole de schiste continuent à vivre. Et puis deuxièmement, un prix pas trop élevé pour ne pas décourager les consommateurs américains et les acheteurs d'essence. Donc, on a un phénomène dans lequel il faut un prix suffisamment élevé pour que les pays du Golfe puissent en profiter, Arabie Saoudite, Russie aussi, et un prix qui soit en même temps pas trop bas pour pas décourager les investissements. Donc, on a une espèce de, je dirais, d'arbitrage à l'heure actuelle, et Poutine a dit il y a quelques jours que les $70 lui convenaient. Et à mon avis, le $70 à l'heure actuelle est un prix d'équilibre qui peut être maintenu pendant un certain temps, malgré toutes les volatilités qu'on peut envisager dans le futur.
Et alors les prix peuvent être orientés à la hausse, on l'entend, les observateurs se déchirent sur cette question, mais selon vous, Mathieu Zeno, les prix du pétrole ne peuvent pas non plus augmenter inexorablement.
Bah, on a une prise, en fait, une espèce de pince du crabe entre un prix du baril qui doit être suffisamment élevé pour permettre aux pétroliers de continuer à faire des investissements, et on pourra peut-être en parler, c'est de plus en plus compliqué pour eux, et puis un prix du baril qui ne doit pas remonter trop haut. On voit le phénomène avec les gilets jaunes, les manifestations de demain, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs que les automobilistes se plaignent. Un prix du baril et un pétrole trop élevé a un effet récessif. On s'attendait avant les prix qu'on a atteints dans les années, à la fin des années 2000, au moment de la crise des subprimes, on pronostiquer, on présageait des prix du baril qui pourraient peut-être monter à $200-$300. On comprend très bien aujourd'hui qu'un prix du baril trop élevé, on l'a déjà vécu en 73, en 79, lors des chocs pétroliers, c'est un effet récessif massif. Et donc, entre Caride et Silla, la production mondiale de pétrole est vouée à un avenir très incertain. Et l'AIE, aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie, dit attention, les pétroliers n'investissent pas assez aujourd'hui et on peut s'attendre à avoir un choc de l'offre, un manque de pétrole à l'horizon 2020-2025 aujourd'hui.
Et en même temps, ce qui va dans le sens de prix du pétrole qui pourrait être tiré à la baisse, c'est que selon certains observateurs, au contraire, l'offre pourrait rester supérieure à la demande en 2019, Jean-Marie Chevalier.
Oui, il y a tellement d'incertitudes géopolitiques. Vous voyez, des pays comme la Libye, comme le Venezuela, qu'est-ce que ça va être dans quelques années, ou l'Irak, ou l'Iran, on peut se poser plein de questions. Donc si vous voulez, c'est un sentiment général d'incertitude. On n'a pas une tendance à long terme, c'est une hausse des prix, mais quand, comment, à quel rythme, c'est plus difficile à dire. Donc, à l'heure actuelle, gardons l'idée que le prix du pétrole s'élèvera dans le futur à long terme, mais à quel rythme, on ne sait pas.
Alors voilà pour les cours du brut. Maintenant, comment est-ce que les prix à la pompe se forment-ils? Et d'abord, comment expliquer que cette baisse de 20% des cours du brut n'a pas été ressentie par les consommateurs, Mathieu Zeno?
Parce que les raffineurs ont des stocks qui doivent écouler. Le pétrole qui arrive à la pompe aujourd'hui, il a été acheté il y a quelques semaines ou quelques mois. Et puis il y a un jeu aussi assez discret de la part des pétroliers qui consiste à rattraper les évolutions des cours du brut sur leur marge de raffinage. Ça c'est beaucoup plus cryptique, mais c'est clair qu'il n'y a pas un effet immédiat. C'est pas parce que le brut descend ou monte de 10 ou 15% dans les dernières semaines que ça va se répercuter directement à la pompe.
Non, mais prenons le prix de l'essence, si vous voulez, dans le prix de l'essence, les 1,50€ qu'on paye, le prix du brut compte pour à peu près 40 centimes. Donc une baisse de 20% sur 40 centimes, ça va se traduire par une diminution de 8 centimes du prix de l'essence. Et puis, comme vous venez de le lire, il y a quand même la longueur de la chaîne entre l'extraction d'un pétrole brut en Arabie Saoudite et la pompe. À côté de Paris, il y a quand même du chemin à parcourir, et donc une filière qui est assez longue. Et la répercussion, elle est suivie de très très près par Bercy, parce que Bercy demande à ce que les pétroliers, les distributeurs, répercutent le plus rapidement possible une baisse des prix ou une hausse des prix. Et je crois que ça marche assez bien, ça.
Alors, c'est la fiscalité écologique qui est principalement pointée du doigt, car les taxes sur le pétrole représentent 60% du prix à la pompe. Pourtant, Sébastien Timsit, elles ne sont qu'en partie responsables de la hausse actuelle des prix de l'essence.
Oui, absolument. Sur la hausse actuelle, en fait, il y a deux tiers de la hausse qui viennent donc du prix du baril, si je pars par exemple par rapport à la fin de l'année 2017, et un tiers lié à la fiscalité. Voilà. Donc, effectivement, c'est vrai que les taxes aujourd'hui constituent 60%. Comme on l'a vu, du prix de l'essence disponible pour les consommateurs. Et après, on peut aborder la partie climatique qui elle-même ne constitue qu'une fraction, qui en fait constitue 10% du prix final, même un peu moins, 12 centimes sur les 1,50€ du litre. Donc c'est en fait assez faible.
Et alors parmi les responsables de cette hausse, il faut aussi citer le fait que l'euro a diminué face au dollar, Jean-Marie Chevalier, et peut-être le fait aussi que les marges des distributeurs auraient augmenté.
Les marges des distributeurs sont très contrôlées par Bercy. Le taux de change, il est effectivement exogène, et c'est une partie des variations du prix de l'essence pour le consommateur.
Et donc avec la hausse des taux annoncés par la Fed, qui devrait entraîner une hausse du dollar, on peut là aussi s'attendre à ce que la situation empire.
Oui, absolument.
Alors, au-delà des 60% de taxes, donc il faut compter pour le prix à la pompe 27% à peu près pour le brut, 5% de coût du raffinage et 7% de coût de distribution. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut adapter les taxes au cours d'hydrocarbures, Jean-Marie Chevalier? Parce qu'on peut se demander, on peut se dire que le gouvernement a fait preuve d'une certaine impréparation, car il aurait pu anticiper ce qu'une remontée du cours du pétrole allait entraîner.
Oui, moi je crois qu'il y a un défaut de pédagogie. On a des taxes, et une grande partie de cette taxe est quand même une taxe écologique, c'est-à-dire qu'il faut préparer la transition énergétique, et là-dessus, on n'explique pas assez aux consommateurs français qu'on est face à un problème dramatique qui est le réchauffement climatique, qui nous menace, la plupart des foyers et des zones exposées, et donc faut lutter contre ça. Donc l'idée, c'est de trouver de l'argent dans les taxes sur les produits qui dégage des émissions de gaz à effet de serre pour financer et accélérer cette transition énergétique. Ça, ça n'est pas dit de façon suffisamment claire.
Est-ce que c'est cette hausse sur les taxes qui explique les mécontentements, ou est-ce que c'est plutôt la façon dont ces revenus sont ensuite utilisés par l'État, Sébastien Timsit?
Alors juste un petit point de contexte quand même. Les produits pétroliers, ça constitue. Donc on a vu l'urgence climatique, il y a eu beaucoup de communications récentes, les rapports du GIEC notamment. Donc il y a un vrai sujet. Par exemple, sur l'empreinte, sur les émissions de la France, les produits pétroliers constituent la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que si on doit cheminer vers la transition, si on doit faire face à si on doit lutter contre le changement climatique, il est nécessaire de passer par une limitation de la consommation de ces produits pétroliers, et en particulier l'essence. Le transport constitue l'essentiel de ces émissions. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel je voulais revenir. Après, sur la fiscalité en tant que telle, il y a effectivement un sujet de communication. Il faut voir que l'objet de la taxe carbone, c'est d'orienter les comportements des consommateurs. Mais ça ne veut pas dire que forcément les recettes de cette taxe, même s'il y en a déjà une partie qui est fléchée vers la transition énergétique,
20% à peu près,
20%, qui doivent être intégralement orientées vers la transition. Ça ne veut pas dire que le gouvernement, par ailleurs, ne doit pas avoir de position sur la transition. Emmanuel Macron parle d'investissement. Alors après, on peut avoir une grande discussion sur les investissements qui sont ciblés dans son discours, parce qu'il y a une question de priorité qui est très importante. Ça, on pourra y revenir après. Mais donc, il y a ce sujet, effectivement, on va dire, il y a les mesures de court terme qui ont leur place. Il y a effectivement, comme ça a été dit par Jean-Marie Chevalier, je pense, une planification plus long-termiste à avoir sur la prise en compte de cette hausse de la fiscalité carbone, parce qu'elle est nécessaire. On a vu, le pétrole, il faut le retirer. La fiscalité, elle joue un rôle central là-dedans. Donc il faut prendre en compte, on va dire, cet impact sur le pouvoir d'achat, en particulier pour les catégories qui peuvent être les plus lésées par la lutte contre le changement climatique. Et en dernier lieu, il y a cette communication importante d'investissement sur la transition énergétique qu'il faut avoir.
On a le sentiment,
oui, vous venez de mentionner la sensibilité des citoyens au prix de l'essence. C'est très important. Et politiquement, c'est très grave. Parce qu'un Parisien moyen qui prend le métro pour aller à son travail est à peu près insensible au prix de l'essence. Alors que, en province, il y a des gens qui font 70, 80 km par jour pour aller à leur travail. Et donc, le budget essence pèse lourd dans leur budget. Et donc, il faut fondamentalement qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement, c'est sur quoi travaille le gouvernement à l'heure actuelle, pour essayer d'alléger le poids financier d'une augmentation des taxes et du prix de l'essence et du gazole sur les foyers.
Mathieu Ozanneau.
Je dirais qu'il faut surtout une stratégie. Vous parliez de communication. Je pense que ce qui fait défaut aujourd'hui principalement, c'est la construction et l'explication d'une stratégie cohérente qui fait défaut aujourd'hui. Si on prend des ordres de grandeur, la TICPE, la taxe sur les carburants, enfin sur l'ensemble des carburants fossiles, devrait rapporter l'an prochain 37 milliards. C'est la quatrième ressource de l'État. 37 milliards à l'État et aux collectivités locales. Si on met bout à bout toutes les mesures incitatives pour acheter des véhicules plus propres, pour faire des travaux de rénovation chez soi, par exemple, on arrive péniblement à 1,5 milliard. Le crédit d'impôt sur les travaux d'efficacité énergétique, son enveloppe l'an dernier était de 1,4 milliard. Elle a été rabotée. Elle est à 800 millions aujourd'hui. Donc c'est assez légitime. On a 37 milliards de recettes d'un côté et vraiment en soufflant fort, on arrive péniblement 1,5 milliard de mesures incitatives. Bon, il n'y a pas de stratégie cohérente. Et puis, il y a des injonctions contradictoires. Pourquoi est-ce que, par exemple, on manque d'audace aujourd'hui? Le candidat Macron disait « Je ne veux plus de voitures à moteur thermique en 2040. Je suis le champion du climat. Tiens, pourquoi est-ce qu'on, par exemple, on pourrait faire des choses qui ne coûtent pas grand-chose, comme interdire de faire des publicités pour des véhicules qui consomment plus de 5 litres au 100 ? Je crois pas que le changement climatique soit moins dangereux que le tabac ou l'alcool.
Alors, on va en reparler, mais en l'occurrence, est-ce que c'est ce qui explique ce sentiment d'une instrumentalisation de la fiscalité écologique pour boucler le budget de l'État, Jean-Marie Chevalier ? Et dans ce cas, selon vous, à quoi devraient être utilisées ces taxes ? Mathieu Ozanneau le disait, près de 40 milliards d'euros de recettes attendues de la TICPE.
Alors, il y a un principe qui est la non-affectation des ressources de l'État, qui est évidemment sur lequel joue beaucoup Bercy.
Complaisamment, parce que ça n'empêche pas d'avoir des mesures audacieuses, importantes. Le gouvernement, Édouard Philippe, a annoncé avec force communication un plan vélo. Voilà, un plan vélo. Quand on regarde, on a 750 millions sur 7 ans. Voilà, 50 millions d'euros par an. 50 millions d'euros par an, quand on sait que le vélo est un véhicule éminemment puissant, couplé avec les transports en commun. Voilà, ce qui manque aujourd'hui, c'est une stratégie cohérente et audacieuse. On peut encore la bâtir.
On a eu l'accord de Paris, quand même, sur laquelle la France a été un promoteur très important. La France n'a pas conclu par un plan général pour lutter contre le réchauffement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si on expliquait cela aux Français d'une façon claire et cohérente, la pilule passerait peut-être plus facilement.
Mais en tout cas, c'est une réalité, Jean-Marie Chevalier, qu'aujourd'hui, une grande partie de l'argent, des revenus de ces taxes écologiques sert davantage à boucler le budget, à compenser le manque d'économie par ailleurs.
Absolument.
Oui, il y a une grosse partie qui va aux collectivités locales. Aujourd'hui, on sait que les collectivités locales qui entretiennent les routes départementales, par exemple, donc c'est très important aussi pour les transports, ont des difficultés. C'est clair que cette augmentation des recettes, elle vient nourrir principalement un État qui a du mal à boucler les fins d'année.
Et ce qui provoque aussi le mécontentement, c'est le fait que la fiscalité écologique épargne le secteur aérien ou le transport routier de marchandises. Alors comment l'expliquer, Jean-Marie Chevalier ?
Il y a un problème, c'est que le transport aérien est un transport international. C'est-à-dire que si, tout d'un coup, on mettait en France des taxes sur le kérosène, ça fausserait la concurrence sur le ciel.
On pourrait très bien taxer les billets d'avion sur les vols intérieurs français et proposer à nos partenaires européens de faire de même. Nos partenaires européens dire non, on ne veut pas taxer les vols intérieurs en Union européenne parce que c'est pas bon pour l'aéroport de Francfort.
Non,
à un moment donné, il faut un peu de cohérence.
Je suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec le principe. Oui, il faudrait, mais je crois que nos partenaires n'accepteraient jamais système.
Juste un point de contexte quand même. Donc effectivement, il faut que tout le monde soit entre guillemets fiscalisé de la même manière. Et on comprend que sur l'aérien, c'est quand même dommage de voir cette espèce de niche. Voilà. Après, sur les enjeux. Il faut quand même voir que c'est pas non plus beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Hein, ouais. C'est environ moins de 5%, 3-4% sur les émissions nationales. Sur l'international, c'est beaucoup plus. Mais en tout cas, au niveau national, c'est peu, donc on pourrait fiscaliser.
Sébastien, c'est quand même symboliquement intéressant.
Tout à fait.
Lorsqu'on a fait la réforme de la SNCF, qu'on a cherché de l'argent pour le train, à aucun moment on s'est dit, tiens, on pourrait taxer les vols intérieurs en France. Un peu.
Alors qu'effectivement,
ne serait-ce que symboliquement, ça aurait un rôle.
Alors, face aux inégalités qui sont entraînées par la fiscalité écologique dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, la réponse du gouvernement, c'est on va vous aider à changer de véhicule ou de mode de chauffage afin que ceci consomme moins ou plus du tout d'énergie fossile. Alors, est-ce que ces mesures d'accompagnement sont adaptées, selon vous, et est-ce qu'elles sont suffisantes? Édouard Philippe a annoncé un plan de 500 millions d'euros, alors qu'en 2019, si on compte l'alignement progressif de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, les taxes vertes devraient s'alourdir de près de 4 milliards d'euros. Mathieu Ozano.
Oui, il y a déjà ce problème que vous soulignez d'échelle entre les recettes et les dépenses. Et puis aussi, on peut se poser des questions sur la cohérence de ce qu'on finance. Typiquement, aujourd'hui, les crédits d'impôt pour faire des travaux d'efficacité énergétique chez soi bénéficient pour beaucoup de l'ordre de 200 millions d'euros l'an prochain sur une enveloppe qui est de l'ordre de 700 ou 800 millions d'euros, bénéficient aux chaudières au gaz naturel. Alors qui sont très efficaces, qui ont fait beaucoup de progrès, mais qui fonctionnent quand même avec du gaz naturel qui vient de chez Monsieur Poutine ou d'Algérie et qui émettent du CO2. Est-ce que on pourrait pas trouver des choses? Oui, on pourrait trouver des choses beaucoup plus pertinentes à financer dans la chaleur renouvelable, par exemple les pompes à chaleur, les poêles à bois, le solaire thermique. Tout ça, c'est des choses qu'on pourrait prendre de ces 200 millions qu'on met dans les chaudières au gaz naturel qui émettent du CO2 vers des choses qui n'en émettent pas. Pourquoi ne le fait-on pas?
Il y a deux aspects. Il y a à la fois les mesures de compensation sociale et les mesures pour inciter à changer les comportements.
Oui, il y a deux choses. Il y a d'une part la transformation du parc, que ce soit le parc automobile ou le parc des chaudières. C'est quelque chose de lent. Et les primes à l'heure actuelle en place favorisent plutôt les plus riches que les plus pauvres. En revanche, du point de vue immédiat, il y a ce chèque énergie dont on est en train de revoir les conditions et qui, là, c'est une mesure qui, effectivement, diminue pour un foyer donné la charge immédiate de l'augmentation du prix de l'essence. Et ça coûte pas très cher, en plus.
Un chèque énergie qui va passer de 150 à 200 euros, Mathieu Ozano.
Néanmoins, si on n'était pas pusillanime depuis de nombreuses années sur la capacité à financer un plan réellement audacieux de rénovation des passoires thermiques, si on l'avait fait il y a 10 ans, on serait pas obligé de mettre une cautère sur une jambe de bois parce que les factures des gens de chauffage auraient diminué.
Sébastien Tinsit, le gouvernement a tout de même raison de tenir bon sur l'augmentation des taxes écologiques. Fin 2014, l'écotaxe sur les poids lourds avait été abandonnée après la mobilisation des bonnets rouges.
Bien sûr. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur les trajectoires, sur la stratégie, alors c'est pas qu'il n'y a pas de stratégie, il y a quand même une stratégie qui est en cours de définition quand même, il faut bien le dire, ce qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est en cours de... Il y a eu des publications, on va dire, intermédiaires, il y aura une publication finalisée bientôt, et donc pour décroître forcément sur les émissions de gaz à effet de serre en France, c'est un outil qu'il est nécessaire de mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix finalement pour orienter les comportements. Et donc il y a les solutions à privilégier, et notamment effectivement dans le bâtiment. Il faut voir qu'aujourd'hui c'est un cinquième des émissions françaises. Il y a un effort colossal à faire puisqu'on a besoin justement de ces rénovations qu'évoquait Mathieu. Le gouvernement à un moment avait un objectif de 500 000 rénovations par an. Dans les faits, il y en a significativement moins, et donc il est important de s'engager sur le transport et sur le bâtiment, sur des opérations importantes.
c'était No Cars Go d'Arcade Fire et nous sommes toujours avec Jean-Marie Chevalier, Mathieu Ozano et Sébastien Timsit pour parler de l'après-pétrole. Alors peut-on vivre sans pétrole? C'est la question qu'on va se poser. Et d'abord, il faut préciser qu'à l'heure actuelle, le pétrole est encore largement la première source d'énergie au niveau mondial et la consommation continue à augmenter partout dans le monde, à une exception près, Mathieu Ozano, qui est l'Europe.
Oui, les pays développés, les pays riches, occidentaux de manière générale, ont tendance à avoir une consommation qui stagne relativement, ouais, depuis une dizaine d'années.
Et la consommation est tirée en grande partie par la Chine.
La croissance de la consommation est tirée par les pays en développement, Chine et Inde principalement, oui.
En revanche, si l'on parle de mix électrique, la part du pétrole est assez faible et c'est le charbon qui reste la première source d'électricité.
Oui, c'est la seule transition énergétique réussie. C'est au sortir du choc de 73, on s'est dit on va arrêter de faire de l'électricité avec du fioul. Et ça fait que notamment on a développé largement le diesel en France pour récupérer ce fioul qui sortait des raffineries dont on ne savait plus quoi faire.
Alors est-ce que le modèle énergétique de la France qui a fait le choix du nucléaire pourrait lui permettre de s'affranchir plus facilement du pétrole, Jean-Marie Chevalier?
La France a un modèle effectivement très particulier avec un poids du nucléaire qui va diminuer forcément année après année, à un rythme de fermeture des centrales qu'on ne connaît pas, qui est très difficile à décider parce que moi je suis économiste et on a sur le dos ces 58 centrales. Tant qu'elles fonctionnent en respectant strictement les normes de sécurité sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire, il faut, à mon avis, les laisser fonctionner et puis les remplacer petit à petit par un système énergétique qui sera beaucoup plus diversifié dans l'avenir. Et pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est la progression de l'intelligence énergétique. Et intelligence énergétique, ça passe évidemment par tout ce qui est économie, efficacité, renforcement des complémentarités. On va avoir des complémentarités terribles entre électricité, chaleur, sources biologiques, etc. Et donc il faut travailler sur ces combinaisons avec un rôle important à jouer par les collectivités locales qui prennent souvent des initiatives qui mettent en place des systèmes énergétiques qui préfigurent ceux du futur. Donc la France est un cas parmi les autres, mais je veux dire, il faut donner au maximum l'intelligence énergétique et la pousser au maximum.
Malgré le nucléaire, le pétrole représente tout de même 45% de la consommation finale d'énergie en France, mais on estime que le nucléaire lui permet peut-être d'être le deuxième pays européen le moins dépendant de ses importations d'énergie. Sébastien Timsit.
En tout cas, ce qui est pour moi intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le fait que l'électricité française soit peu carbonée offre, on va dire, tout un développement possible pour l'électrification des usages, qu'ils soient dans le bâtiment, qu'ils soient dans la mobilité. On pourra parler du véhicule électrique après. Ça fait partie de l'éventail des solutions qui sont à notre disposition. Après, à titre personnel, moi, je suis pas partisan d'opposer les chapelles, que ce soit les énergies renouvelables ou le nucléaire. L'électricité décarbonée est une chose, c'est central pour faire la transition, mais il y a aussi un moment de développement des gaz renouvelables qui seront quelque part aussi nécessaires pour faire la transition, même si le gaz dans le bâtiment est une question qu'on a évoquée tout à l'heure. On a aujourd'hui une grande consommation de gaz dans le bâtiment qui est responsable aussi de beaucoup d'émissions. Et donc, il faut d'une part aussi un peu faire décroître cette quantité de gaz qu'on consomme au global, mais il faut aussi quand même pousser au maximum, pousser fortement la chaleur renouvelable et le gaz renouvelable également, qui joueront un rôle important.
On parle renouvelable, c'est très important. On a des perspectives de biogaz qui sont extrêmement intéressantes. C'est un peu coûteux pour l'instant par rapport au gaz, au prix du gaz que l'on importe, mais ça risque de s'améliorer dans l'avenir.
Alors on parle beaucoup des voitures électriques, des voitures hybrides qui pourraient constituer des alternatives à la voiture thermique. Mais ce dont on commence à se rendre compte en réalité, Mathieu Ozano, c'est que ces voitures sont aussi également assez polluantes.
Alors les voitures qui dépendent de grosses batteries, notamment les véhicules hybrides non rechargeables embarquent avec elles de très grosses batteries. Imaginez électrifier pleinement le parc automobile d'un grand pays développé comme la France, ça aura de ce point de vue-là un impact non seulement écologique, mais aussi géostratégique. Il y a une question de dépendance vis-à-vis des fournisseurs, des matériaux qui permettent de faire ces batteries, en particulier la Chine, qui est très sérieuse. Donc typiquement, on peut se dire qu'une solution massive, et c'est sans doute là-dessus que se rejoignent à peu près tous les écologistes, une solution massive, c'est la solution de la sobriété. Donc je pense que avant de réfléchir technologie, ça peut être intéressant de réfléchir aux usages. Et je pense en particulier, je défends l'idée que le véhicule individuel propriétaire, ce modèle-là, doit être remis fortement en cause. On a une forêt de start-up qui démarre en ce moment pour favoriser le covoiturage local pour aller au travail.
Oui, parce que la France périurbaine ou rurale va vous dire que c'est assez compliqué de se passer de la voiture.
Oui, mais encore une fois, si on fait une stratégie cohérente pour développer les alternatives et pour développer les transports sobres. Donc le vélo pour aller jusqu'à l'arrêt de bus, le vélo électrique qui permet de faire ce qu'on faisait quand j'étais gamin en mobylette à peu près, comme parcours, sans difficulté. Les lignes de bus express, le train qu'on sous-finance massivement depuis plusieurs décennies maintenant, et puis les véhicules partagés sobres et légers. Avec cette combinaison-là, y compris en zone périurbaine, on a fait ce travail-là de modélisation très poussée au Shift Project, on s'aperçoit que, moyennant des investissements limités dans ces alternatives-là, les gens, au final, y compris en grande périphérie urbaine, leur budget de mobilité s'allège de plusieurs centaines d'euros par an. Donc, qu'est-ce qu'on attend ?
Sur cette question des voitures électriques ou hybrides, comment expliquer et comment s'est-on rendu compte qu'en réalité, elles étaient également polluantes, Sébastien Timsit ?
Je reviens un instant sur ce que a dit Mathieu, parce que je suis tout à fait d'accord, même si effectivement les solutions sont différentes entre de l'hypercentre urbain, enfin voilà, faut pas du tout généraliser ce qu'est Paris par rapport à d'autres zones qui sont effectivement moins urbanisées. Donc effectivement, les mobilités collectives et actives, le vélo, la trottinette, seront effectivement essentiel en milieu urbain, notamment effectivement pour un peu chasser le véhicule individuel, puisque l'autosolisme, c'est quand même la tendance dominante en milieu urbain, et c'est un problème. Après, effectivement, quand on va rentrer sur du périurbain ou sur du rural, là, il y a des espaces organisés, notamment en périphérie des villes. Et pour les villes un peu moins denses ou pour les milieux ruraux, effectivement, il y a du transport à la demande, des choses comme ça, des nouveaux services qui vont pouvoir être organisés. Mais à court terme, même si sobriété il y a, le véhicule électrique pourrait constituer une partie de la solution. Et donc là, sur le point justement de la pollution...
Il n'y a pas de véhicule zéro carbone, ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas. Donc quand même, le message à retenir là-dessus, c'est que sur le véhicule électrique, même si on intègre la chaîne de valeur amont, hein, donc les matériaux critiques ou qui pourront être critiques, qu'il faut intégrer dans la batterie des véhicules, la fabrication des véhicules, si vous voulez, la France, aujourd'hui, son électricité est peu carbonée, et donc si vous voulez, à la fin des fins, les véhicules électriques, quand même, beaucoup plus intéressants du point de vue de la lutte contre le changement climatique que le véhicule thermique.
Donc, à condition que l'électricité soit décarbonée. Voilà, une voiture électrique qui circule en Allemagne, c'est pas très intéressant.
Autour de tout ça, il y a le mot diversité, c'est-à-dire qu'aussi bien pour les systèmes énergétiques que pour les systèmes de mobilité, et la mobilité est très importante, c'est diversité, la combinaison de formes différentes. Sur la voiture électrique, j'ai quand même quelques inquiétudes sur l'électricité, parce que ça demande des masses considérables d'électricité, et d'où elle va venir cette électricité, on ne sait pas trop. Hein. Et je pense que là, il y a un changement de comportement qui se profile. On n'est plus à la voiture individualisée, personnalisée. Il faut remplacer par une multiplicité d'autres moyens de locomotion. Et ça, ça va toujours dans le sens de diversité.
Une gestion intelligente. Vous parlez de la gestion intelligente de l'électricité. C'est sûr que pour un développement massif du véhicule électrique, il va falloir organiser cette gestion intelligente. Si tout le monde se met à recharger, si on a imaginé qu'on ait 40 millions de bagnoles électriques en France et que tout le monde la recharge à 19h, c'est pas possible. Donc il faudra, comme pour les ballons d'eau chaude, comme des choses comme ça, décaler les besoins. Donc c'est beaucoup de technologie aussi derrière.
Et alors il y a aussi la
voiture. Et il faut pas penser à 30 millions de voitures électriques.
Oui.
La voiture électrique sera un moyen parmi les autres de mobilité.
Sébastien Timsit.
Voilà, alors après, quand on analyse assez froidement les chiffres, justement, à très long terme, si on électrifie quand même une part assez substantielle de véhicules particuliers, même si effectivement il y en a moins, etc., dans les scénarios de long terme, en tout cas, la demande électrique globale, hein, alors ça s'accompagne effectivement de rénovation, donc il y a quand même, on consomme moins d'énergie dans le bâtiment, etc. Mais au global, on reste sur des niveaux de consommation électrique qui sont assez proches d'aujourd'hui. Donc, certes, il faudra savoir quels sont les instruments de production production de cette électricité demain. Ça pourrait être partiellement nucléaire, partiellement renouvelable, mais en tout cas, il ne faut pas s'émouvoir d'une explosion de la consommation électrique qui serait liée à la mise en, sur le marché de ces véhicules.
Il y a aussi la voiture à hydrogène qui suscite des espoirs, mais malgré toutes ces innovations, Mathieu Zano, vous, ce que vous dites, c'est que ce sont surtout les nouveaux modes de mobilité qu'il va falloir créer.
Oui, en fait, le problème se résume à quelque chose de très simple. Le pétrole, c'est la source d'énergie la plus commode qu'on ait jamais mis au jour. Toutes les alternatives au pétrole, à part le muscle des cuisses pour faire du vélo, pour faire de la marche, mais c'est pas tout à fait la même vitesse qu'on peut avoir. Toutes les alternatives techniques au pétrole sont plus chères et plus compliquées. Toutes. Et ça restera comme ça. Vous parliez de l'hydrogène. L'hydrogène, si on veut la produire avec de l'électricité, c'est aujourd'hui beaucoup plus cher que ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on la produit à partir de gaz naturel. Vous voyez? C'est pour ça que les réponses systémiques qui conduisent à de la sobriété, partager des véhicules, envisager d'avoir des véhicules moins puissants, plus légers et oui, moins rapides. Et partager, mais ça c'est une réponse qui est massivement efficace pour sortir du pétrole. Il faut se méfier des réponses purement techniques. Regardez, si on complexifie le problème, je prends l'exemple de la voiture hybride non rechargeable. Moi, il m'arrive, comme aujourd'hui, d'être parfois un peu en retard et de prendre un taxi à Paris. Si vous posez la question aux taxis qui roulent tous dans des hybrides rechargeables, non rechargeables, pardon, dont je ne citerai pas la marque, ils vous disent qu'ils consomment 5, 6, 7 litres au 100. C'est pas tellement moins qu'une voiture de même gamme. Pourquoi ? Parce qu'on a alourdi le véhicule, on avait un système de motorisation, on a deux. Vous voyez, en complexifiant le système avec des réponses purement techniques, souvent, en fait, on tourne en rond.
Sébastien Timsil.
Ouais, juste quelques mots. Effectivement, la sobriété et les solutions de transport en commun actives, c'est essentiel. Juste un point quand même sur les coûts, parce qu'il y a eu des communications récentes en disant, ah, il y a une petite prime si moi je veux changer mon véhicule, etc. Comment je fais si j'ai pas trop d'autres choix à date? Mais que je veux me décarboner, ou que de toute façon j'ai pas le choix parce que ma facture d'essence ou de diesel sera trop importante. Juste un élément là-dessus, hein, il faut savoir quand même qu'avec les aides, si je fais un kilométrage assez important par an, hein, de l'ordre de 15, 20 000, 25 000 kilomètres aujourd'hui, certes un investissement important à faire pour acheter ma voiture, j'ai quelques aides qui viennent m'aider, voilà, mais après je vais quand même beaucoup réduire ma facture sur l'utilisation de mon carburant, en fait, hein, voilà, si j'ai un véhicule électrique, je vais quand même dépenser beaucoup moins sur mon carburant. Et en fait, il faut savoir que si on met tout, si on fait la balance, si on fait l'équilibre économique, si on regarde, est-ce qu'à la fin, je suis gagnant avec les aides, si je fais beaucoup de kilomètres par an, je suis gagnant aujourd'hui et encore plus demain avec une baisse du prix du véhicule électrique.
Et en même temps, il y a des ambiguïtés sur ces primes à la reconversion qui permettent aussi d'acheter un véhicule diesel. Mathieu Zano.
Oui, encore une fois, on parlait au début d'audace et de cohérence. Pourquoi ne pas mettre une obligation de rachat de véhicules sensiblement moins vorace en énergie? Donc à nouveau, ça vient un peu contrevenir à l'image de la perpétuation d'un statut social à travers l'achat d'un gros véhicule, parce qu'il s'agit de ça aussi. Mais une prime, un système bonus-malus qui dirait « vous avez une bagnole qui consomme 7 litres au 100, si vous voulez bénéficier de la prime, vous rachetez un véhicule qui va en consommer 4 », ça c'est de la cohérence. Alors le problème, c'est que ça prend un peu le contre-pied à nouveau du discours sur la libération à travers le véhicule et le statut social acheté à travers la grosse cylindrée. Mais ce monde-là, ou alors on déchire les accords de Paris sur le climat tout de suite, prétendre qu'on peut réussir à sortir du pétrole, la sortie du pétrole, sans aller vers des modes de transport massivement plus sobres, c'est mentir. C'est mentir.
Vous parliez tout à l'heure des énergies fossiles bien moins coûteuses. Et justement, est-ce que le pétrole ne risque pas de devenir l'énergie du pauvre, de celui qui ne peut pas se payer des technologies avancées comme des voitures hybrides ou électriques, Sébastien Timsit?
Donc voilà, bon, il y a cette question quand même de l'équation économique qui peut être plus ou moins favorable, etc. Là où on revient sur le sujet d'avant, d'avoir un peu de la stratégie. Bon, certes, sur la stratégie de décarbonation de la France, etc., c'est une chose, mais aussi cette transition, on l'a bien vu, il faut qu'elle soit sociale. On ne peut pas ignorer aujourd'hui le message des différentes personnes qui peuvent se retrouver lésées dans la lutte contre le changement climatique. Voilà, effectivement, si moi je suis en milieu un petit peu éloigné, que j'ai un véhicule qui n'est pas très récent, que j'ai pas beaucoup d'argent, que j'ai un peu du mal à me chauffer, ça nécessite plus que le pansement ponctuelle, une prise en charge, on va dire, pérenne et un cadre, on va dire, une stratégie en tout cas de prise en charge, de compensation, en tout cas de rétablissement de l'équité, si vous voulez, vis-à-vis des gens qui ont le plus de mal. C'est pour ça notamment que c'est assez difficile de flécher, on peut pas flécher, par exemple, les recettes de la taxe carbone simplement, parce qu'on voit qu'il y a d'autres questions, en fait, qui interviennent. Il y a effectivement, je peux financer telle ou telle action, mais il y a un problème d'équité sociale à rétablir, qu'il faut prendre en charge, qu'il faut planifier, structurer.
Jean-Marie Chevalier, on manque d'audace aujourd'hui pour amorcer vraiment la fin du véhicule thermique, et en l'occurrence l'après-pétrole.
Oui, on manque d'audace et on n'invoque pas assez les dégâts que va commettre le réchauffement climatique sur nos économies. On a eu ces accords de Paris, ça a été formidable comme étape, mais il se passe rien depuis. Et donc on a une responsabilité majeure sur la qualité de la planète qu'on lègue à nos enfants. Et donc tout ce qui peut lutter contre le réchauffement climatique est quelque chose de très important.
Vous le disiez, Sébastien.
Juste un micro-complément. Et en plus, c'est les catégories potentiellement les plus défavorisées qui seront les plus exposées au changement climatique, notamment parce qu'elles auront des latitudes beaucoup plus faibles que les autres. Moi, par exemple, si j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas déménager à tel endroit si je suis en zone inondable, en zone inflammable ou que sais-je.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Mathieu Zanneau, dans son programme de campagne, Emmanuel Macron avait annoncé qu'on ne pourrait plus acheter en France de véhicules thermiques en 2040. Alors, ça paraît une échéance assez proche. Mais pour le cabinet de conseil Carbone 4, pour lequel vous travaillez, Sébastien Timsit, se passer du pétrole d'ici là reste possible? Vous êtes en train de travailler à un certain nombre de solutions. Est-ce que vous pouvez commencer à nous en donner quelques-unes?
Alors, les solutions, on les a évoquées un petit peu déjà. Donc, effectivement, donc aujourd'hui, l'essentiel du pétrole qui est consommé, effectivement, c'est pour le transport, c'est 75% et quelques. Donc, il y a dans les poches, en gros, le gros poche, le transport, on l'a vu, il y a le bâtiment. Il y a quand même aujourd'hui encore des gens qui consomment du fuel, et il y a l'industrie. Donc si on prend le transport, effectivement, on l'a évoqué, en fonction de votre localisation, vous avez les transports en commun, les mobilités actives. Si vous êtes en milieu un peu plus éloigné, il y a les bus, le transport à la demande, les petites lignes ferroviaires. Parce qu'effectivement, quand on a parlé des petites lignes et leurs déficits de rentabilité, on n'a pas du tout regardé la question climatique. Donc ça, c'est important. Il y a le véhicule électrique sur le transport aussi, qui, à ce stade, est une solution. Après, il y a l'industrie dont on a parlé. Et après, pour le bâtiment aussi, c'est quand même important. Et sur ce point, on peut quand même saluer, en tout cas, la déclaration qui a été faite de ne plus d'avoir recours aux chaudières au fioul. Ça, c'est un élément important, effectivement, à sortir du paysage bâtimentaire.
Pour conclure, c'est peut-être la fiscalité écologique qui reste la plus efficace pour changer les comportements et amorcer l'après-pétrole, à condition que les coûts soient en partie compensés pour les plus modestes et que ces dépenses, ces revenus soient bien fléchés, Jean-Marie Chevalier.
Et à condition de faire accompagner par une pédagogie qui explique où on veut aller, quels sont les objectifs et la relativisation des objectifs les uns par rapport aux autres.
Mathieu Zanneau.
Oui, et puis il y a pas que la fiscalité, il y a plein de décisions politiques qui ne coûtent rien à part un peu de courage. Par exemple, je répète, prévenir nos constructeurs que en 2025, si on veut dire 2040, il y a plus de voitures à essence, on peut très bien dire 2025, je n'homologue plus de véhicules qui consomment plus de 5 litres au 100. Pourquoi pas? Ça coûterait rien à l'État.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois. Mathieu Zanneau, directeur du Shift Projet et auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole paru à la découverte. Jean-Marie Chevalier, professeur en sciences économiques à Paris Dauphine. Je rappelle également votre dernier livre co-signé avec Olivier Pastré, L'énergie en état de choc, 12 cris d'alarme publiés chez Erol. Et merci à vous, Sébastien Timsit, chargé de la finance carbone au sein du cabinet Carbone 4. Il est 14h45 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'économie du bien-être d'Alfred Cecil Pigou, un ouvrage publié en 1920 dans lequel l'économiste britannique s'intéresse aux relations entre la production et le bien-être des sociétés. Et c'est Jacques Lecacheux qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes professeur agrégé d'économie à l'université de Pau et à l'école nationale des ponts et chaussées. Avec son essai « The Economics of Welfare », Arthur Pigou pose les fondements de ce qu'on appelle l'économie du bien-être. Alors, qu'est-ce que le bien-être en économie et comment se mesure-t-il selon Pigou ?
Alors justement, là, l'ouvrage de Pigou est très intéressant parce que il consacre de très longs développements dans les premiers chapitres à essayer justement de cerner cette notion de bien-être. Il essaie surtout de voir quelle est la relation entre ce qu'on peut appeler le bien-être économique, c'est-à-dire au fond l'affluence, l'aisance, la prospérité, et puis le bien-être au sens des philosophes. Donc il a une réflexion assez profonde sur cette question, et ensuite il va passer à la question de savoir comment on peut mesurer le bien-être économique à partir du moment où il conclut qu'il y a quand même une assez bonne corrélation entre le bien-être économique et le bien-être en général.
Alors selon lui, tout accroissement de la somme disponible, donc des biens économiques, va dans le sens d'une augmentation du bien-être. Et Pigou postule également l'utilité décroissante du revenu ou de la richesse. C'est l'idée que la perte de satisfaction que subira le riche, que l'on taxe, sera moins grande que le surplus de satisfaction dont jouira le pauvre qui recevra le produit de la taxe.
Oui, c'est une idée qui est commune à pas mal d'économistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. C'est une hypothèse qui est un des fondements de l'analyse microéconomique qu'on appelle marginaliste. Effectivement, ça va lui permettre dans cet ouvrage aussi de discuter la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la redistribution, c'est-à-dire prélever sur les riches pour donner aux pauvres avec des justifications théoriques solides, on va dire.
Mais le problème, c'est que le bien-être, selon Pigou, suppose que les variations de satisfaction soient finement mesurables et comparables pour un même individu et entre individus. Alors comment les économistes du bien-être vont-ils dépasser ce problème ?
En réalité, il consacre aussi des développements assez longs à cette question de la mesurabilité. Il essaie de proposer des solutions. Mais on sait aujourd'hui que c'est un problème récurrent dans l'analyse économique du bien-être, qu'en fait, on ne peut pas comparer les satisfactions ou les bien-être individuels selon une métrique commune. Et donc, il faut essayer de s'en tirer par soit des hypothèses spécifiques, soit des artifices. Alors, certains économistes contemporains s'en tirent, par exemple, en essayant de mesurer l'équivalent de revenus qui serait nécessaire pour compenser une perte de bien-être, etc. Donc, essayer de ramener ça aux revenus. Mais c'est pas très évident.
Et il y a aussi le concept de Vilfredo Pareto, cette idée du bien-être collectif maximal qui va être ensuite repris par les économistes du bien-être.
Alors, ce qui est intéressant, oui, justement, dans l'ouvrage de Pigou, c'est que, évidemment, il part de ce qui est, au fond, le savoir de son temps, et notamment les grands économistes de la fin du 19e et du début du 20e, donc Marshall, qui a été son professeur, et puis Pareto, notamment. Et il va reprendre l'idée de Pareto que... l'un des objectifs de la politique économique, c'est de maximiser la somme totale de tous les bien-être individuels et donc d'essayer d'atteindre ce que Pareto appelle un optimum social, c'est-à-dire le bien-être le plus élevé possible pour l'ensemble de la société.
Et comment on détermine cet optimum social ?
Alors, l'optimum social, selon Pareto, c'est celui qu'on obtiendrait si tous les marchés étaient parfaitement concurrentiels, si tous les marchés, du coup, atteignaient leur équilibre, s'il y avait parfaite mobilité des ressources entre les secteurs, etc., etc.
Et c'est notamment l'idée que le bien-être collectif maximal est atteint dès qu'on ne peut augmenter le bien-être d'un individu sans détériorer celui d'un autre.
C'est ça. Alors, ce que montre Pareto, c'est que ce qu'on peut appeler la frontière d'efficience de l'économie, c'est-à-dire la limite maximum que l'on peut atteindre sur ce bien-être, correspond justement à une situation où on ne peut plus accroître la satisfaction de l'un sans diminuer celle d'un autre, c'est-à-dire redistribuer du coup.
L'un des grands apports d'Arthur Pigou, Jacques Lecacheux, c'est d'expliquer cette relation qui existe entre, d'un côté, la production et, en l'occurrence, ce qu'on appelle les externalités en économie et le bien-être des sociétés. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce que sont des externalités et nous dire ce que Arthur Pigou en fait, en quelque sorte ? Peut-être d'abord rappeler ce que c'est qu'une externalité ?
Alors, l'externalité, donc, ce sont toutes les situations dans lesquelles la décision économique ou le contrat, donc soit une décision individuelle, soit un échange entre deux agents économiques va avoir des effets induits non désirés et non pris en compte sur une tierce personne ou sur un tiers agent.
Voilà. Donc ce sont les effets collatéraux, positifs ou négatifs, voilà, des actions des entreprises.
Des entreprises ou des particuliers d'ailleurs, de tous les agents économiques, dès lors que les conséquences de leurs actions affectent un tiers qui n'est pas partie prenante à la décision.
Et alors quel rapport Pigou entretient-il en particulier avec les externalités ?
Alors, ce qui est tout à fait remarquable dans cet ouvrage, c'est que Pigou montre que chaque fois qu'on est en présence d'une externalité, qu'elle soit positive ou négative, eh bien, le marché laissé à lui-même ne pourra pas atteindre ce fameux optimum social dont on a parlé précédemment. Et donc, il montre que dans toutes ces situations, on a ce qu'il appelle un écart entre le coût social et le coût privé, ou ce qu'il appelle le dividende social et le dividende privé, c'est-à-dire bénéfice en gros.
Et alors pour lui, la solution, c'est que l'État devrait mettre en place des taxes punitives en cas d'externalité négative et accorder des subventions en cas d'externalité positive. Alors comment est-ce qu'il en arrive à cette proposition ?
Eh bien en fait, il montre que lorsqu'il y a justement un écart entre le bénéfice social et le bénéfice privé, l'État doit combler cet écart, corriger cette défaillance, ce qu'on appelle aujourd'hui une défaillance de marché, soit avec une subvention lorsque l'écart est négatif. Donc il faut inciter donc les gens à faire plus de cette chose qui bénéficie à d'autres qu'à eux-mêmes, soit une taxe lorsque l'écart est positif, parce que dans ce cas-là, il faut dissuader les agents économiques privés de choisir ces solutions qui se font au détriment des autres ou qui
quand,
ont
quand
des effets négatifs,
voilà,
qui ont des effets négatifs sur les autres. Et donc, il est vraiment à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le principe pollueur-payeur, par exemple, même s'il n'emploie jamais ce terme lui-même.
Alors, expliquez-nous effectivement le principe du pollueur-payeur qui est aujourd'hui au cœur de l'économie environnementale. C'est l'idée pour une entreprise de prendre en compte le coût des conséquences environnementales, par exemple, dans le prix de ces produits.
Ce qui est intéressant, c'est que Pigou donne beaucoup d'exemples, à la fois d'externalités positives et d'externalités négatives, et notamment parmi les exemples, il cite justement le cas d'une usine qui émet des fumées nocives, etc. Donc il y a bien la notion de pollution, même s'il n'a pas le mot, mais enfin, c'est bien des exemples qu'il prend. Et alors, l'idée là est très simple. L'idée, c'est qu'au fond, on va obliger l'entreprise à prendre en compte l'externalité négative qu'elle inflige à l'environnement et aux proches, par exemple, en lui faisant payer une taxe qui représente finalement le coût social de son activité de pollution.
Et quel exemple d'externalité positive Pigou mobilise-t-il ?
Alors, il en mobilise plusieurs. Hein. Il en mobilise dans le domaine, par exemple, des transports. Il en mobilise aussi dans le domaine de la santé, hein, et dans le domaine aussi de la recherche. Alors, c'est assez intéressant parce que il a tout un développement où il dit la recherche, c'est générateur d'externalité positive parce que ça va donner des connaissances scientifiques qui vont profiter à toute la société. Et donc, il faut que l'État subventionne la recherche parce que c'est générateur d'externalité positive.
Jacques Lecacheux, vous êtes vous-même beaucoup intéressé au bien-être en économie, notamment dans le livre que vous avez publié avec Éloi Laurent, « Un nouveau monde économique, mesurer le bien-être et la soutenabilité au XXIe siècle ». Qu'est-ce qui reste aujourd'hui valable, selon vous, dans les thèses d'Alfred Pigou sur la nature et les déterminants du bien-être ? Et qu'est-ce qui vous semble, au contraire, dépassé ?
Commençons peut-être par ce qui semble dépassé. Ce qui semble dépassé, c'est, on va dire, l'espèce d'élitisme qui transpire dans l'ouvrage de Pigou, une espèce de condescendance à l'égard des ouvriers, etc., etc., qui est très typique de l'élite britannique des années 20-30. Ça, c'est clairement dépassé. En revanche, ce qui est particulièrement d'actualité dans les analyses de Pigou, c'est d'une part, je vous dis, tout ce qui concerne la répartition, les inégalités. Il a des développements très intéressants là-dessus, et notamment il a des développements même sur le revenu minimum, etc., qui sont un peu précurseurs des débats qu'on a sur le revenu universel, etc. Donc il y a vraiment une grande modernité là-dedans, et puis alors évidemment surtout tout ce qu'il dit sur les externalités négatives et sur ce qu'on appelle aujourd'hui la taxation pigouvienne des externalités négatives, c'est-à-dire tout ce qui concerne la lutte contre la pollution.
Alors plus largement, alors que Pigou prône l'intervention de l'État pour régler les dysfonctionnements du marché, on l'a dit, l'économiste est au contraire absolument anti-interventionniste sur les questions de chômage et d'emploi. En cela, il est plus proche d'Alfred Marshall, l'un des pères de l'économie de l'école néoclassique qui a été son professeur, que de John Maynard Keynes qui, lui, a été son élève.
Oui, alors l'une des choses qu'on a retenues, c'est la grande controverse dans les années 30 entre Keynes et Pigou sur la nature du chômage. Keynes, dans son ouvrage La théorie générale, lorsqu'il parle du modèle classique qu'il attaque en permanence, en fait, celui auquel il pense, c'est Pigou. Et Pigou a très violemment critiqué la théorie générale de Keynes.
Et donc, sur quoi s'oppose-t-il ?
Alors, sur justement la nature du chômage, parce que chez Pigou comme chez Marshall, il n'existe pas vraiment de ce que Keynes appelle du chômage involontaire, et donc Pigou est plutôt, comme les partisans de l'économie classique, persuadé que c'est un problème de prix du travail, et que donc c'est l'insuffisante flexibilité des salaires et du marché du travail qui explique le chômage, alors que Keynes, comme chacun sait, était lui au contraire persuadé que le chômage, notamment dans les phases de récession, était largement involontaire. Mais il ne faut pas en déduire pour autant que Pigou était insensible au sort des ouvriers, etc. Il a toujours dans cet ouvrage, il a des chapitres extrêmement intéressants sur le salaire minimum, sur est-ce que il faut encourager les entreprises dans les périodes de récession à faire du temps partiel plutôt que de licencier, etc. Donc il s'intéresse beaucoup à ces questions quand même. Ça n'est pas juste un horrible bonhomme, quoi.
Et vous, Jacques Lecacheux, comment avez-vous été amené à vous intéresser à Alfred Pigou ?
Alors moi, j'avoue que comme beaucoup d'économistes, j'ai d'abord entendu parler d'Alfred Pigou à propos justement des externalités, et notamment de la pollution et de la politique fiscale que Pigou préconise pour lutter contre la pollution. Et c'est seulement par la suite, en lisant son ouvrage, que j'ai découvert les autres aspects. Mais c'est vraiment sans doute ce pourquoi il est le plus connu aujourd'hui.
Pigou qui est très connu, mais dont les ouvrages sont en réalité très peu traduits.
Oui, bizarrement, il a écrit plus de 30 ouvrages et une centaine d'articles, donc il a été très très prolixe. Il a eu une carrière très longue, puisqu'il a été nommé prof à Cambridge en 1908. Il a succédé à Alfred Marshall, il avait 31 ans, et il est mort en 59. Donc vous voyez, il a eu quand même plus de 50 ans de carrière académique. Et aucun livre de lui n'est traduit en français, curieusement, alors qu'on le cite très souvent, justement, sur ces questions.
Merci beaucoup, Jacques Lecacheux, de nous avoir permis de découvrir l'économie du bien-être d'Alfred Pigou. Je rappelle votre livre « Un nouveau monde économique, mesurer le bien-être et la soutenabilité au XXIe siècle ». Il a été publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Entendez-vous l'écho, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, on s'attaque à l'industrie de la viande. Quel est l'itinéraire d'un beefsteak, des pâturages à nos assiettes? Et d'où vient notre alimentation carnée? On en parle dès lundi à partir de 14h. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.